Voici une question dont la réponse sera très utile pour chacun de nous. Comment faut-il réagir quand une personne en autorité est en colère contre nous? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. En vieillissant, surtout quand on a la Bible pour nous enseigner, on acquiert de la sagesse. Mais même après plus de 28 ans de connaissance dans la parole de Dieu, il m'arrive parfois de trouver que je manque de sagesse dans certains domaines. C'est pourquoi je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore nous donner des bons conseils de sagesse en réponse aux questions que voici. Est-ce qu'un pauvre peut donner des conseils sages? Est-ce qu'une femme sage peut avoir assez d'influence pour aider son peuple? Est-ce que tous les individus exerce une influence quelconque sur leur entourage? Quel est le pire ennemi de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'une seule bêtise peut avoir des conséquences graves? Est-il important que ceux qui servent Dieu le fassent avec enthousiasme? Est-ce qu'on peut reconnaître un insensé quand il parle? Comment est-ce qu'on doit réagir quand une personne en autorité est en colère contre nous? Est-ce qu'il y a des insensés qui réussissent dans la vie? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher sans que Dieu finisse par le reprendre? Demeurez avec nous, on va recevoir les réponses à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu nous enseignes la sagesse ces jours-ci, et je t'en rends grâce, Seigneur, on a toujours besoin d'en acquérir, pour mieux te servir, mieux te connaître. Aide-nous, Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui, aide-nous à bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons regardé le portrait que trace l'Ecclésiaste de l'homme sans Dieu. Il ressemble à un animal, car qu'il soit sage ou insensé, riche ou pauvre, tous finissent au même endroit, tous doivent mourir. Pour le fataliste, c'est la fin de tout. Ton heure est venue et tu ne peux rien y faire. Tu te retrouves 2 mètres sous terre et il n'y a plus aucune vie après. En fait, la vie est un coup de dé. C'est une question de naître au bon moment, au bon endroit. Toujours selon le fataliste, nous sommes comme des poissons pris dans un filet. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive. Sans Dieu, la vie est vaine et futile. Et la voie que choisit un homme n'a aucune importance. De plus, la vie de la bonne personne moraliste est ennuyeuse. Nous avons aussi démontré qu'après la mort, l'âme va en présence du Seigneur. Certaines sectes utilisent les versets 5 et 10 pour affirmer que l'âme dort après la mort. Nous avons démontré que ce n'est pas le cas. C'était les versets 5 et 10 du chapitre 9 du livre de l'Ecclésiaste. Finalement, pour terminer sur une note plus positive, nous avons rappelé aux auditeurs que si leur péché les séparait de Dieu, celui-ci se réjouit lorsqu'un pécheur se repent. Dieu veut une relation cœur à cœur entre nous et lui. Il veut que nous l'aimions, et pour faire tomber la barrière du péché qui nous sépare de lui, le Fils a quitté sa gloire céleste pour prendre un corps humain. Il s'est sacrifié pour nos péchés, et nous pouvons être accueillis gratuitement au ciel grâce à ce sacrifice. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 14 du chapitre 9 de l'Ecclésiaste. Salomon nous raconte une petite parabole. Chers amis, débutons notre lecture, Ecclésiaste 9, les versets 14 et 15. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Un pays doit toujours être sur ses gardes pour ne pas être envahi par un de ses voisins ou par un dictateur. En plus d'être incapable de régler ses problèmes sociaux, ce qu'il n'a pu faire en 6000 ans d'existence, l'homme contemporain non sauvé n'est jamais complètement en sécurité. À cela s'ajoutent maintenant de grandes catastrophes naturelles dues à la perturbation du climat, c'est-à-dire le réchauffement planétaire. Le pauvre homme sage est une image de Jésus-Christ. Oui, chers amis, l'homme pauvre et sage qui a sauvé la ville est une image du Seigneur Jésus. Cet homme s'appelait Sagesse, un autre nom pour Jésus-Christ. Notre Sauveur n'a pas vécu dans les richesses lorsqu'il était sur terre. Jésus a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ces propos nous sont rapportés par l'évangéliste Matthieu, chapitre 8, verset 20. Jésus n'a jamais été riche. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne savent plus qui il est. En fait, on célébrait sa naissance le jour de Noël, mais maintenant on l'a remplacé par le Père Noël. Lisons notre texte, Ecclésias, chapitre 9, verset 16 et 17. Et j'ai dit, « La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Méprisez-vous l'opinion du pauvre? Un insensé qui provoque des émeutes ne fait qu'aggraver les problèmes. Lorsque ceux-ci se règlent, c'est à la suite de pourparlers et de négociations autour d'une table. Un de mes amis était considéré dans son milieu. Un jour, il s'est retrouvé sur le bien-être social à cause de malencontreuses circonstances. Il m'a dit que pendant cette période, il avait nettement l'impression qu'on ne le prenait pas au sérieux. Maintenant, il a un emploi et tout va bien. Son entourage considère de nouveau son opinion. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées, précise le texte. À la toute fin, c'est la voix du Seigneur Jésus qui l'emportera. Lorsqu'il viendra, sa voix ressemblera au cri d'un archange et au son d'une trompette. Aujourd'hui, nous entendons un brouhaha de voix provenant de toutes les directions, mais un jour, le Seigneur Jésus imposera sa voix. Poursuivons notre lecture d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit dans ce chapitre. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Et le Seigneur Jésus vaut mieux qu'une arme nucléaire. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Au chapitre 20 du deuxième livre de Samuel, nous avons le récit d'une femme qui a sauvé sa ville par sa sagesse. Joab, le chef de l'armée de David, poursuivait Sheba, fils de Bichri, qui s'était révolté contre David et qui s'était réfugié dans la ville de Abel-Beth-Maaca. L'armée de Joab sapait le rempart pour le faire tomber. Une femme avisée de la ville entreprit des pourparlers avec Joab. Et ensuite, elle affronta toute la population de la ville avec sa seule sagesse. Elle a fait comprendre aux citoyens qu'ils pouvaient éviter le massacre de la population en livrant Sheba, fils de Bichri, à Joab. La sagesse de cette femme a été plus efficace que les hommes armés qui défendaient la ville. Un individu exerce toujours une influence sur son entourage. Le texte précise, un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un individu exerce toujours une influence sur son entourage. En général, elle est plus forte lorsqu'elle se fait vers le mal. L'histoire le démontre bien. Adam a péché, et cela a eu un effet sur toute la race humaine. Achan avait pris du butin lors de la chute de Jéricho, ce que l'Éternel avait formellement interdit. Toute la nation a subi une défaite pour ce péché. La nation a dû régler ce péché avant de poursuivre la conquête du pays. Roboam a provoqué la division de son royaume par son orgueil. Nous exerçons tous une influence, soit pour le bien, soit pour le mal. Qu'importe qui nous sommes, nous avons une sphère d'influence. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Citation de Romains, chapitre 14, verset 7. Nous prêchons tous par nos actes et par notre façon de vivre. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes forcément des prédicateurs. C'est cela qui a conduit un membre de notre équipe au Seigneur. Lorsqu'il étudiait à l'université, il a remarqué un groupe de chrétiens. Ils étaient heureux. Ils s'aimaient et les principes selon lesquels ils fonctionnaient les démarquaient des autres. « Je les croyais fous, me dit-il, mais avant longtemps, je voulais leur folie. Ils étudiaient la Bible et ils parlaient constamment d'une nouvelle naissance. Je me suis acheté une Bible. » Et j'ai commencé à la lire sérieusement. Il a premièrement lu l'Évangile selon Pierre, selon Pierrette, selon Linda, selon Eric, etc. Il a vu l'Évangile s'exprimer à travers ses vies. Et ses témoignages de Pierrette, Linda et Eric. Ensuite, il a sérieusement lu l'Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Le pire ennemi de l'Église est le chrétien de nom. Je crois que la bonne personne moraliste, celle qui se vante de sa bonne vie, mais qui n'a pas de relation avec Dieu, fait le plus de tort à l'Église. En fait, il est une entrave à l'Évangile. Il empêche les gens de venir à Dieu, car sa vie prêche un faux Évangile. Suivez mon exemple. Je vis sans Dieu, je mène une bonne vie. Il n'y a rien de tel pour étouffer l'esprit dans un groupe. Qu'importe qui vous êtes, vous prêchez même si votre cercle d'influence est restreint. Vous êtes un prédicateur dans votre foyer. Dans quelle direction orientez-vous vos enfants? Ils suivront vos pas. Ils apprennent tout de vous. Et c'est vous qui exercez la plus grande influence sur eux. Si vous cherchez à contrôler votre entourage en faisant des crises de colère, c'est ce qu'ils feront. Une dame avait été adoptée dans une famille alors qu'elle était très jeune. Dans cette famille, on ne parlait jamais des problèmes à l'extérieur. Et lorsqu'on sortait, on mettait un masque et l'on se comportait comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Son fiancé a rompu leurs fiançailles lorsqu'il se rendit compte que sa future épouse avait adopté ce comportement. Elle ne voulait pas discuter des problèmes, mais simplement prétendre que tout allait bien lorsqu'il se retrouvait avec la parenté, les amis ou en public. La Bible dénonce ces choses. Un tel comportement n'est point agréable à Dieu. Dieu appelle cela de l'hypocrisie, c'est-à-dire de cacher les faits, de ne point faire face à la réalité. Dieu veut que nous abordions nos problèmes et, surtout, y apporter la solution. Dieu est prêt à nous apporter la lumière, à nous apporter les conseils nécessaires pour résoudre chacun de nos problèmes dans notre vie. Peut-être exercez-vous une influence sur un grand cercle de connaissances. Peut-être est-ce que votre influence s'exerce sur votre quartier, votre communauté ou à l'école du dimanche. Quoi qu'il en soit, vous êtes observé, et les gens veulent savoir si vous êtes sincère avec Dieu. Est-ce que pour vous, fréquenter l'Église équivaut à fréquenter un club social? Est-ce que votre vie enseigne qu'il y a un Dieu saint qui se préoccupe de ses enfants? Vous avez une influence sur quelqu'un. L'apôtre Pierre a prêché un sermon puissant le jour de la Pentecôte. André se tenait non loin de lui avec les autres apôtres, et il pouvait dire « C'est mon frère. C'est moi qui lui ai présenté le Seigneur Jésus. » André a eu une influence sur son frère Simon-Pierre. Vous aussi, mes amis. Vous indiquez une direction aux gens. Est-ce celle du ciel ou celle de l'enfer? Si vous désirez aller en enfer, cela vous concerne. Cependant, vous n'avez pas le droit d'y entraîner quelqu'un d'autre avec vous. Vous n'avez pas le droit de conduire votre famille et votre entourage dans cette direction. Rappelez-vous le texte. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Réfléchissez à cela. Vu les injustices que l'on subit dans la vie, parfois il est préférable d'agir avec modération. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Une bêtise peut avoir des conséquences graves. Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour illustrer cette vérité. Faire la fête un seul soir peut avoir des conséquences graves sur la santé d'une personne ou même conduire à son décès. Un diacre dans une église a raconté une triste anecdote. « J'ai été élevé dans un foyer chrétien », a-t-il dit. « Lorsque j'ai quitté le foyer familial pour un emploi, je suis allé faire la fête en ville avec les gars un samedi soir. C'est la seule fois que j'ai fait cela. Mais j'ai attrapé une maladie transmise sexuellement. J'ai dû retarder mon mariage de plusieurs années et j'ai dû rompre mes fiançailles avec une fille bien. Une seule mouche morte infecte l'huile du parfumeur. C'est tragique. Une mère passe deux décennies à élever un fils dans la sagesse et il rencontre une fille qui défait tout son travail en 5 minutes. Imaginez, un soupçon de folie, une petite bêtise, c'est tout ce qu'il faut. Un petit écart peut avoir des conséquences fâcheuses sur le reste de votre vie et faire souffrir d'autres personnes. Revenons au texte de l'Ecclésiaste. Lisons chapitre 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Le cœur d'un homme sage est à sa droite, et tout ce qu'il fait, il le fait de bon cœur. Il ne le fait pas avec réticence. Le cœur de l'insensé est à sa gauche, et il travaille sans enthousiasme. Mes amis, mettez tout votre cœur dans ce que vous entreprenez. Si vous êtes pour servir Dieu, faites-le avec joie et enthousiasme. Ne présentez pas la vie chrétienne comme étant un fardeau. Que votre attitude montre son utilité et sa valeur. Travaillez à l'œuvre du Seigneur avec enthousiasme. Ecclésiaste 10, verset 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « Voilà un fou ». Pour paraître sage, l'insensé devrait se taire. Ce verset diffère d'une traduction à l'autre, car deux sens sont possibles. La traduction œcuménique de la Bible a opté pour le deuxième sens. Même en chemin, quand l'insensé s'avance, l'esprit lui fait défaut. Il fait dire à tout le monde qu'il est insensé. Les deux sens ne sont pas contradictoires, car, en général, un insensé traite tous les autres d'insensés. Un insensé n'a pas besoin de porter un écriteau sur lequel on lit « Je suis un insensé ». En fait, il n'a qu'à ouvrir la bouche, c'est tellement plus simple. Il arrive même que l'on perçoive qu'il est un insensé sans qu'il ne dise un mot. Parfois, nous participons à une consultation publique pour trouver une solution à un problème. Un de nos voisins se lève et fait une excellente suggestion. Nous nous rendons compte qu'il était plus renseigné et plus sensé que nous le pensions. Un autre se lève, et aussitôt qu'il ouvre la bouche, tous perçoivent immédiatement qu'il est un insensé. Poursuivons la lecture d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si les personnes en autorité sont en colère contre toi, ne réagis pas avec colère. Demeurez calme et évite d'envenimer la situation, et cela évite de poser des gestes répréhensibles. Ecclésiaste 10, versets 5 et 6. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. Ceci est vrai dans notre société contemporaine. Autrefois, le péché était caché. Les endroits où trouver une prostituée étaient légèrement à l'écart, dans des petites rues. Rien n'était visible sur les boulevards et les grandes artères. Aujourd'hui, le vice s'affiche ouvertement, et on lui donne des noms qui ont une meilleure connotation. Nous voyons des annonces dans les journaux que nous n'aurions jamais vues il y a quelques décennies. Les gens qui pratiquent ces choses sont invités à la radio et à la télévision pour des entrevues ainsi que pour des débats. Les auditeurs, qui sont plus âgés, doivent se rappeler du temps où ils allaient voir les danseuses en cachette le samedi soir. Aujourd'hui, lorsque les personnes de ce milieu passent en entrevue, elles sont traitées avec autant de dignité qu'un politicien ou un athlète. Nous voyons très rarement une entrevue avec un citoyen ordinaire ou un chrétien ordinaire. Certains d'entre eux sont des atouts pour leur communauté. S'ils ne supportent pas des projets financièrement, ils le font par du bénévolat. Ils sont impliqués dans des projets louables. Ils sont dans l'abaissement d'une certaine façon. On ne parle jamais d'eux. L'attention des médias se porte plutôt sur les pécheurs, les excentriques et les loufoques. Poursuivons la lecture d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Peiner au travail, économiser son argent et étudier beaucoup ne garantit pas le succès. L'insensé qui demeure à la porte voisine peut hériter d'un million ou gagner à la loterie. L'insensé se promène avec une voiture luxueuse alors qu'un sage doit marcher ou se servir des transports publics. À voyager à travers la province et à travers le pays, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. C'étaient des gens humbles, et certains ne vivaient pas dans le luxe alors que d'autres avaient de belles maisons. Les médias ne se sont jamais intéressés à eux. Ce sont des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Verset 8 d'Ecclésiaste, chapitre 10. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ne pensez pas qu'un enfant de Dieu qui pêche s'en tire. C'est de la folie que de tenter Dieu. Il n'intervient pas toujours rapidement, mais en son temps, il le fait toujours. Ne laissez pas la patience de Dieu vous induire en erreur à ce sujet. Ecclésiaste 10, verset 9. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. À cette époque, remuer une pierre, c'était déplacer une borne qui indiquait la limite d'une terre. C'est une autre façon de dire que l'on ne s'en tire pas avec le péché. Si vous volez et vous trichez, Dieu s'occupera de vous personnellement. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 19. Dieu ne laisse pas les pécheurs s'en tirer, surtout s'ils sont de ses enfants. Nous terminons la lecture d'aujourd'hui en lisant Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Oui, cher ami, si nous n'aiguisons pas la faux, nous dépensons d'énergie inutilement. Un jeune homme a dit que le Seigneur l'appelait à devenir un prédicateur. Il cherchait un programme de cours pour sa formation. Son pasteur lui a dit « Ne fais pas cela, jeune homme, prends le temps d'aiguiser ta faux. » Préparons nos outils avant de se mettre au travail. Préparons nos cœurs avant de servir Dieu. Dieu s'intéresse à notre cœur, il s'intéresse à notre vie. Il a investi son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. L'as-tu reçu dans ton cœur? L'as-tu invité comme sauveur personnel? Le Seigneur de ton existence? Il est prêt à le devenir maintenant, aujourd'hui même. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Ecclésiaste chapitre 10, verset 11 à chapitre 11, verset 10. Je vous souhaite à tous bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as dit que peu importe qui on est, on prêche. Même si notre cercle d'influence est restreint, chaque individu exerce une certaine influence sur son entourage. Eh bien, mes amis, je pense qu'on est plusieurs à se rendre compte de cette vérité. Personnellement, je connais des gens tout simples qui font des choses qui ont plus d'impact dans leur entourage que d'autres gens qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'instructions. À mon église, le dimanche matin, après la période de louange, on a presque toujours une période d'édification avant la prédication. Durant cette période, les membres de l'église ont la liberté de venir en avant de l'assemblée pour partager quelque chose que le Seigneur leur a dévoilé dans sa parole ou dans leur vécu. Et ainsi, on peut tous bénéficier de leur expérience en tant que croyants. C'est très édifiant. Un certain dimanche, j'écoutais des frères et sœurs de mon église qui venaient en avant avec leur Bible, et j'étais très édifié, très encouragé par les petits trésors qu'ils avaient découverts dans la parole de Dieu et dans l'application qu'on pouvait en faire dans notre vie. Mais ce matin-là, un frère qui est reconnu comme étant très timide s'est avancé avec un sourire radieux. Ses yeux pétillaient d'amour et de joie. Et ce qu'il nous a dit m'a édifié encore plus que tous les autres cette journée-là. Il venait simplement pour rendre hommage à nos enseignants qui renonçaient à eux-mêmes dans le but d'aller annoncer la bonne nouvelle dans d'autres villes de notre région afin qu'ils s'ouvrent de nouvelles églises qui feront connaître le salut par la foi en Jésus-Christ aux gens qui sont encore sans Dieu dans le monde. Alors ce frère était tellement joyeux d'honorer ses frères. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 27, il est écrit que chercher la gloire des autres est un honneur. Ce frère ne nous enseignait pas ce passage en le citant, mais en le mettant en pratique. Et toute l'assemblée s'est réjouie avec lui. Ce matin-là, on a tous appris une belle leçon d'amour et d'humilité. Ce frère a eu une très belle influence sur nous. L'honneur qu'il donnait à ses frères glorifiait notre Dieu, qui est l'amour même. Mon ami, est-ce que tu crois que Dieu est l'amour même? On peut le voir dans la première épître de Jean, au chapitre 4, des versets 8b à 10. Je vous invite à le lire avec moi. Il est écrit que Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et il termine cette épître en nous exhortant à mettre cet amour en pratique, comme le frère que je vous ai mentionné aujourd'hui. Voici ce qu'il dit au verset 11. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Quelle joie d'apprendre à aimer par l'auteur de l'amour, par ce Dieu qui est l'amour même, ce Dieu qui a donné son Fils Jésus, qui est venu mourir sur la croix pour nous.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens. Ils seront aidés.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel,
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale,
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.